Pierre Auberger dirige la communication du groupe Bouygues. Alors le groupe Bouygues, vous connaissez évidemment ses marques, à commencer par Bouygues Télécom, l'opérateur téléphonique, TF1, mais vous connaissez certainement également Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas, qui sont parmi les trois grandes marques fondatrices de ce groupe. Durant sa jeunesse, Pierre aurait voulu être marin. Il en a gardé un côté capitaine, non pas de frégate, mais capitaine d'industrie et manager. Et croyez-moi, diriger la communication du groupe Bouygues est loin d'être simple. En premier lieu, il dirige une équipe de 25 personnes et anime également un réseau de 300 communicants partout en France et à travers le monde. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous l'aurez compris, ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication est en compagnie d'un homme d'ultra haute qualité, un manager, un entrepreneur qui a baroudé, c'est le cas de le dire, tout d'abord dans le food, chez Danone, avant de travailler chez Sara Lee, et aujourd'hui, depuis presque 13 ans, à la tête de la communication du groupe Bouygues. Je vous laisse écouter cet épisode qui est une véritable masterclass sur les valeurs, sur le management, sur la créativité. Et à ce titre, j'espère que vous apprécierez en laissant un joli commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles et même motif, même punition sur Spotify. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et croyez-moi, j'ai pris un énorme plaisir à interviewer Pierre Auberger, directeur communication du groupe Bouygues. Très très bonne écoute à toutes et à tous.
Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick.
Salut Pierre.
Salut Laurent.
Comment ça va?
Je vais très bien, merci.
Alors, merci à toi de m'accueillir au groupe Bouygues. C'est la classe absolue.
Bon, écoutez, c'est la moindre des choses, chers amis.
Merci beaucoup. Alors, le groupe Bouygues. Bouygues, on sait tous ce que c'est. On connaît Bouygues Télécom. On connaît Francis Bouygues et aujourd'hui Martin Bouygues, grande famille du business français. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter le groupe Bouygues dont tu es le directeur de la communication depuis bientôt 13 ans?
Alors, le groupe Bouygues est un groupe de services diversifiés qui est composé de 5 grands métiers. Bouygues Construction, bien connu, c'est le BTP. Bouygues Immobilier, le promoteur immobilier. Colas, les infrastructures routières et ferroviaires. Et tu l'as cité, Bouygues Télécom. Sans oublier TF1. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si tout va bien, puisque nous sommes en process en ce moment d'acquisition de la filiale d'Engie qui s'appelle Equance, qui est une société de services multitechniques. Normalement, donc, on espère un closing de l'opération à l'été 2022. Nous devrions faire un sixième métier du groupe, qui sera un métier autour des services multitechniques, qui fera de Bouygues le deuxième mondial dans ce domaine, avec un peu plus de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
La classe absolue.
Si tu le dis, c'est que c'est vrai.
On est bien d'accord. Bon, j'ai une question, une première question. Tu sors de l'ESSEC il y a quelques années. Très belle école.
C'est vrai.
Tu fais ton service militaire, comme tous les jeunes hommes à l'époque. Tu vas à Brest.
C'est vrai.
Sous-marin.
Oui.
Marine.
Oui.
Et je crois que tu es encore très attaché à la marine.
C'est vrai.
Ah, faut que tu nous en dises plus, ça, parce que là, deux mots, ça ne va pas le faire.
Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, en fait, moi, j'ai une vocation contrariée d'officier de marine. Ça peut paraître original ou étonnant. Il se trouve que pendant une partie de mon adolescence, j'ai caressé ce projet de devenir officier de marine. Et il se trouvait que mon père l'avait été. Mais pas seulement pour cette raison-là. J'ai malheureusement une vue qui est pas extraordinaire et qui, à l'époque, les conditions d'entrée dans la marine étaient extrêmement strictes et il était difficile de faire une carrière, d'abord d'être pris et de faire une carrière intéressante, notamment de chef de quart, c'est-à-dire d'avoir la conduite du bateau de jour comme de nuit qui mène à un commandement de bateau. Et donc, finalement, j'ai changé de fusil d'épaule, si j'ose dire, et j'ai choisi donc de faire des études de commerce, donc de faire une prépa HEC et ensuite de rentrer à l'ESSEC. Alors, il se trouve que j'ai passé effectivement un an, tu l'as souligné, comme aide de camp d'amiral à Brest et à Paris. J'étais un petit peu entre les deux. Donc aide de camp de l'amiral commandant les sous-marins nucléaires, ce qui était une expérience absolument extraordinaire dans ma vie. J'ai plongé sur ces monstres d'acier à plusieurs centaines de mètres de profondeur avec une force nucléaire. Donc c'est assez imposant. Donc j'ai touché du doigt le cœur de la dissuasion nucléaire à cette époque-là. Et puis voilà, j'ai ensuite rejoint, on en parlera, des entreprises privées. Et puis j'étais un petit peu rejoint par la patrouille, si j'ose dire, en 2016. De façon assez fortuite, il se trouve qu'on avait fait une grosse opération de mécénat de compétences en 2007-2009 en restaurant l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Grande opération de mécénat, plus de 7 millions d'euros. Et notre interlocuteur était la Marine. Il se trouve que la personne en charge de cette opération chez Bouygues prenait sa retraite en 2016. Il organise un pot, il est de départ, et il invite celui qui était son officier traitant et qui, entre-temps, était devenu amiral. Et je discute avec cet amiral et il me parle de la réserve citoyenne en me disant « Tiens, ça pourrait vous intéresser ». Et donc, j'ai dit « Pourquoi pas racontez-moi, je savais pas que ça existait ». C'est une création assez récente. Et donc, je suis rentré dans la marine comme réserviste citoyen avec le grade de capitaine de frégate, donc qui est l'équivalent de lieutenant-colonel, pour travailler auprès de l'état-major de la marine dans les sujets de rayonnement, de lien armée-nation. Et puis, pareil, d'être un petit peu l'ambassadeur de la marine, c'est ce qui m'était demandé, comme tous les réservistes citoyens. Et puis, by the way, de profiter de mon expérience pour aider les gens de l'état-major, si vous voulez, dans mes domaines d'expertise, notamment la communication, voilà, les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, je suis rentré depuis, donc ça fait maintenant bientôt 6 ans, et j'espère pouvoir continuer encore quelques années, puisque je trouve ça extraordinaire.
Comme je te comprends. Alors, on va parler maintenant d'un autre présent, qui dure depuis bientôt 13 ans, en tant que directeur de la communication du groupe Bouygues. Alors, tu as cité les marques, les bientôt 6 métiers. Qu'est-ce que c'est que ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quelle est ton équipe? Il faut que tu me dises, parce que autant je peux le comprendre assez clairement dans les autres marques, Bouygues Télécom, Bouygues Immo, Colas, etc. Mais diriger la com du groupe Bouygues, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quoi le quotidien de Pierre?
Alors concrètement, en fait, c'est réaliser 3 missions principales. La première, c'est promouvoir et protéger les marques du groupe, les sociétés du groupe, les dirigeants, en termes de, notamment de réputation, hein, de savoir-faire, et de construire l'image de marque en fait du groupe. Donc ça, c'est la première chose. Donc promouvoir et protéger. Dans la protection, il y a bien entendu toute la dimension de communication de crise, qui malheureusement, dans un groupe aussi important que le nôtre, arrive assez souvent. Si tu n'entends pas trop parler, c'est que finalement, on fait plutôt pas trop mal notre boulot, enfin en tout cas j'espère. Ça c'est la première mission. La deuxième mission, c'est d'informer l'ensemble de nos parties prenantes, que sont les collaborateurs au premier rang de ces parties prenantes, mais aussi les journalistes, les influenceurs, l'administration et bien d'autres. Voilà, et ça se fait au moyen d'un certain nombre d'outils qui sont des outils des réseaux sociaux, des outils digitaux, des outils aussi de papier, documents d'enregistrement unique, rapports intégrés, etc. Des magazines internes, des intranets, enfin on a toute une panoplie. Donc ça c'est la deuxième mission. Et la troisième mission, c'est la transversalité en fédérant les collaborateurs autour d'une culture forte, ce qui nous caractérise, on pourra en parler si ça t'intéresse, de valeurs et de créer ce sentiment d'appartenance, cette fierté d'appartenir au groupe Bouygues. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un groupe très diversifié. C'est-à-dire que entre la journaliste qui présente le 20h ou un ingénieur qui travaille sur un pont ou un tunnel à Hong Kong, eh bien, il doit y avoir des points communs, des valeurs communes, une façon de travailler commune et puis une fierté d'appartenance. Et ça, c'est tout un travail, ce qui fait qu'on n'est pas un conglomérat. Nous récusons ce vocable de conglomérat. Nous sommes un groupe de services diversifiés, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est cette culture, ces valeurs. On n'est pas un groupe financier, on n'est pas unis autour d'un reporting commun, par exemple. On travaille sur des choses bien plus fondamentales que ça.
Justement, Pierre, je t'arrête un instant. Les valeurs de la maison, la culture de la maison, parce que tu l'as dit très justement, Anne-Claire Coudray, c'est pas nécessairement la même personne que l'ingénieur qui est à l'autre bout du monde en train de construire un pont ou qui est sur une route, hein, on va dire ça. C'est quoi les valeurs de la maison du groupe Bouygues ?
Alors, on a quatre valeurs fondamentales qui, en fait, sont un petit peu la matrice, si vous voulez, de l'ensemble de ce qui structure le groupe en matière de culture, au premier rang desquels le respect. Le respect, c'est se respecter soi-même, respecter ses collaborateurs, respecter sa hiérarchie, respecter ses clients, et c'est en fait la vertu cardinale, si vous voulez, qui est vraiment absolument fondamentale. Et donc, le respect, c'est quelque chose qui doit nous pousser, notamment, à être toujours meilleur au service de nos clients, meilleur que nos concurrents, meilleur aujourd'hui qu'hier, meilleur demain qu'aujourd'hui, et d'être dans une dynamique de progrès. Donc ça, c'est la première valeur, le respect. Deuxième valeur, c'est la confiance. On est un groupe extrêmement diversifié, on l'a dit, mais on est un groupe très décentralisé. Et pour que la décentralisation puisse être efficace, il faut faire confiance. Le patron qui est à l'autre bout du monde, il peut pas être sans arrêt, en étant efficace en même temps, être derrière le dos de son collaborateur. Donc il y a une certaine subsidiarité, une délégation, et on peut pas déléguer sans confiance. Donc ça, c'est extrêmement important. Et en fait, c'est d'autant plus facilité, si tu veux, que beaucoup de gens font d'ailleurs toute leur carrière dans le groupe, et les gens se connaissent, ils ont fait la guerre ensemble, parfois, entre guillemets, et ça crée des liens extrêmement forts, des liens de confiance. Bon, mais tu sais comme moi que la confiance, ça met quand même du temps avant de se créer, et ça peut se dilapider très rapidement. Donc c'est un bien extrêmement précieux qu'il faut cultiver. Donc deuxième valeur. Troisième valeur, c'est la créativité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes avant tout au service des clients. Et dans nos gènes, dans notre ADN, nous avons ce souci de donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de la technologie, le meilleur du progrès au service de nos clients. Et ça passe forcément par de la créativité, parce qu'il faut être différent de nos concurrents, et donc apporter ce plus, si tu veux, que n'offrent pas les autres. Et donc ça nous doit nous pousser à nous remettre en question, à innover en permanence. Et la quatrième valeur, c'est la transmission, puisque la transmission, c'est en fait donc transmettre à la fois d'abord son savoir-faire, son savoir-être, et son expertise, et puis c'est transmettre les valeurs pour faire perdurer cette façon de vivre, cette façon de travailler qui nous est commune à travers les années. Et chaque année, nous avons plusieurs milliers de gens qui rentrent dans le groupe. Il y en a qui partent, beaucoup touchés par l'âge de la retraite. Il y a un renouvellement, il y a assez peu de turnover par rapport à d'autres entreprises. Le groupe Bouygues est encore un groupe où on peut faire toute sa carrière. Et ça, c'est nous considérons que c'est un atout. Mais bien, il faut transmettre à tous ces jeunes ou moins jeunes, et beaucoup de jeunes généralement, qui nous rejoignent. Donc il faut qu'on leur donne cette transmission. Donc pour résumer, respect, confiance, créativité et puis transmission.
Tout ça ressemble à des valeurs d'entrepreneur.
Ce sont des valeurs d'entrepreneur parce que notre président Martin Bouygues, qui n'est que le deuxième président du groupe sur ces 70 dernières années, donc puisqu'on a été fondé il y a 70 ans par Francis Bouygues. Donc lui, Martin Bouygues, c'est un entrepreneur dans l'âme. Francis Bouygues était bien entendu, donc qui est notre fondateur, a créé en 52 le groupe Bouygues, enfin ce qui n'était pas le groupe Bouygues d'ailleurs, ce qui était l'entreprise Francis Bouygues, qui est devenue Bouygues et Bouygues Construction, avait avant tout une âme d'entrepreneur. Donc nous, ça fait partie de nos gènes et nous sommes des entrepreneurs, évidemment.
Justement, toi qui vis aux côtés d'entrepreneurs, qui est proche de la direction, on est bien d'accord.
Oui.
Comment est-ce que tu fais pour quelque part faire passer des messages? C'est loin d'être simple. Parfois, les dirigeants veulent aller très très vite, les directeurs de la communication ou directrices de la communication parfois doivent prendre le train. Comment, toi, tu te fais entendre? Parce qu'avec des personnalités aussi fortes, il faut être soi-même un dircom avec du punch, de la personnalité, et puis il faut savoir, non pas taper du poing sur la table, ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas, savoir se faire entendre. Comment est-ce que tu fais, toi, Pierre, qui a de l'expérience?
Alors, je pense que d'abord, il faut acquérir une crédibilité qui repose sur plusieurs choses. D'abord, évidemment, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, c'est avant tout le savoir-faire, la compétence. C'est-à-dire qu'on attend de moi d'être le sachant en matière de communication, donc capable de communiquer soit vers l'extérieur, soit en interne, de façon efficace, et comme je l'ai dit, et d'accomplir les trois missions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est absolument fondamental. Et chez Bouygues, en toute humilité, je pense qu'on peut dire que le niveau d'expertise, voire le niveau d'excellence, est absolument très élevé. Et donc, on attend de nous d'être d'excellents collaborateurs. Et donc ça, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Alors la deuxième chose, c'est en fait la fiabilité, bien entendu. C'est-à-dire que on est dans un groupe. Alors je suis directeur de la communication d'un groupe coté au CAC 40. Et quand on est coté au CAC 40, on a un certain nombre d'obligations légales. On doit publier en temps et en heure des informations qui sont des informations financières tous les trimestres. On doit communiquer sur des opérations de fusion et d'acquisition. On a un certain nombre d'opérations financières et on se doit d'être juste, d'être précis et d'être rigoureux. On communique les bons chiffres au bon moment, ni avant ni après, etc., etc. Donc ça, je crois que c'est important. Et la troisième chose, et je pense que c'est quelque chose que je recommande en tout cas à la plupart des communicants, c'est de s'appuyer aussi sur une expertise business. Alors j'ai un parcours atypique puisque on en parlera peut-être, mais j'ai fait autre chose. J'ai une vie avant la communication puisque j'ai occupé des responsabilités de directeur marketing et même tous les postes de marketing à l'époque dans des entreprises de grande consommation, notamment Danone. Et puis également des postes commerciaux d'encadrement, donc de vendeurs puis d'encadrement. Et ça m'a donné une connaissance du business, de la stratégie d'une entreprise. Et ça m'a donné la faculté de pouvoir en parler de façon assez fluide, à la fois en externe auprès des journalistes, des influenceurs, mais aussi évidemment en interne. Et donc ça donne une crédibilité supplémentaire. Donc je crois que c'est ce qui fait un peu notre marque de fabrique. Mais encore une fois, je crois que c'est un job pour lequel il faut une certaine humilité parce que malgré l'expérience, malgré la maturité d'une certaine façon, il faut jamais baisser sa garde. Et on n'est pas dans la science, on est dans l'art plutôt. Et donc c'est pas une science exacte, bien entendu. Il faut faire attention aux recettes, dupliquer ce qui a été vrai à un moment ne l'est plus aujourd'hui. Et donc il faut s'adapter en permanence. Donc il faut avoir une énorme agilité, flexibilité, capacité de remise en question et une très grande disponibilité, évidemment, puisque le quotidien d'un directeur de la communication, il est souvent chamboulé par l'actualité. Il faut pouvoir réagir très vite, y compris tard le soir ou tôt le matin et le week-end, pour gérer des crises, gérer des demandes d'information. Et puis également, et je terminerai là-dessus, on insiste souvent assez peu sur ce point, mais je pense qu'il y a une dimension de management qui est extrêmement importante, puisque les directeurs de la communication gèrent des équipes, alors petites, moyennes ou grandes. Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai 25 collaboratrices et collaborateurs, mais en direct, j'ai l'animation d'une équipe d'environ 350 communicants dans le groupe, avec qui j'ai des relations fonctionnelles, mais dont je suis le chef d'orchestre, en fait. Eh bien, il faut animer ces équipes, leur donner du sens, et faire en sorte qu'elles exécutent plutôt une symphonie qu'une cacophonie, c'est-à-dire que le directeur de la communication de TF1 ou de Bouygues Construction fasse parler son patron au bon moment avec les bons messages et en toute transparence avec la maison mère, puisque ça impacte bien entendu le cours de bourse et la réputation.
Comment ça se passe avec les directeurs de la communication des autres très grandes marques? Parce que par moment, il peut y avoir une certaine cacophonie. Nous sommes des êtres humains. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a parfois des conflits d'égo?
Pas du tout. Alors, de mon point de vue, ça se passe extrêmement bien. C'est-à-dire que il y a de leur part la compréhension des enjeux, c'est-à-dire que la prise de parole d'un cadre dirigeant de filiale, ce qu'on appelle un métier chez Bouygues, a bien entendu un impact sur la réputation de l'entreprise et le cours de bourse. Donc eux-mêmes doivent se comporter comme s'ils étaient des sociétés cotées. D'ailleurs, pour deux d'entre elles le sont, puisque TF1 est cotée et Colas est cotée, même si le flottant est assez faible. Mais en tout cas, elles ont ces obligations-là. Et donc, je pense que ce souci est extrêmement partagé. Ils ont compris les règles du jeu, donc ça se fait finalement de façon extrêmement fluide au quotidien. Nous parlons généralement toutes les semaines ensemble, nous nous réunissons, nous partageons nos bonnes pratiques. Ils me soumettent un certain nombre de propositions, de prises de parole, de communiqués de presse. On en discute ensemble et je n'ai jamais eu d'exemples de cacophonie, justement, comme tu pouvais le sous-entendre, ou de problèmes d'ego. Je pense que tout le monde est responsable, et chez Bouygues, les collaboratrices et les collaborateurs sont très responsables et respectueux de la primauté dans ces cas-là de l'intérêt commun, entre guillemets, qui est notre réputation et notre cours de bourse.
C'est qui Pierre le manager? C'est quoi tes méthodes de management?
Alors Pierre le manager, c'est quelqu'un d'exigeant dans l'exécution, le savoir-être, dans la fiabilité, le rendez-vous par rapport aux objectifs, dans le comportement, et qui essaie de donner du sens à ses collaboratrices et collaborateurs, parce que je pense que quand on sait où on va, on est plus performant et on essaie donc de partager tous ensemble nos plans de communication. Et l'idée, c'est que tous mes collaborateurs ici chez Bouygassa doivent savoir exactement ce que fait le petit camarade, où on va collectivement. Donc, et on a des réunions assez fréquentes. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'exigence. Le deuxième, c'est la bienveillance. Alors ça va, c'est aujourd'hui un peu tarte à la crème, mais je pense que je pratique depuis longtemps ce mode de management qui est un petit peu, qui doit être équilibré, qui est parfois un petit peu en tension. C'est que on ne peut, de mon point de vue, être exigeant que si on est bienveillant à côté, parce que bienveillance, c'est en fait donner l'assurance que si les règles du jeu sont bien comprises, il y a aussi un droit à l'erreur. Hein, tu disais tout à l'heure que Bouygues était un groupe d'entrepreneurs. C'est la vérité. Ce que dit très souvent Martin Bouygues, c'est, bah oui, vous êtes des entrepreneurs, vous avez le droit à l'erreur. En revanche, ce qu'il ne faut pas, c'est d'une part de cacher ses erreurs, c'est d'autre part de les faire porter par ses petits camarades. Et puis, il faut par ailleurs les dénoncer rapidement. Et puis, il faut dénoncer les erreurs rapidement et plutôt que de les mettre sous le tapis. Et par ailleurs, il faut également pouvoir les corriger et en tirer les conséquences. On n'a pas le droit de refaire deux fois la même bêtise. Bon, donc ça, c'est important. Et pour mes collaborateurs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils savent que j'attends des choses bien faites de leur part. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais c'est dans notre code ADN Bouygues. Hein. Donc ça, il n'y a pas de mystère. Mais ils doivent compter sur aussi performant de mon point de vue que quand on est motivé, content de rejoindre ses collègues, son patron. Et donc ça, c'est un équilibre quotidien auquel il faut veiller et qui passe par une certaine convivialité. Mais convivialité, c'est pas non plus le copinage. Donc tu vois, il y a un équilibre à trouver, une tension permanente entre ces deux points. Donc voilà mon mode de management.
Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'armée. J'ai fait l'armée. J'ai énormément apprécié. On fait des métiers qui sont de prime abord, toi et moi, dans la communication, très très loin de la rigueur. Mais le groupe Bouygues, c'est un groupe extrêmement rigoureux. Ça commence par Francis Bouygues,
c'est vrai,
un dieu vivant du business en France, qui monte sa boîte de BTP. Et aujourd'hui, c'est ce magnifique groupe international. Et on ne peut pas monter quelque chose d'aussi grand et aussi fort sans avoir à un moment ou à un autre cette rigueur quelque part militaire. Et je la retrouve en toi et j'en suis extrêmement heureux. Alors ça va faire peur à nos plus jeunes auditeurs et nos plus jeunes auditrices, parce que l'armée, on ne sait pas trop ce que c'est, surtout ces temps-ci, malheureusement, l'actualité n'est pas très rose. Mais je crois que tu nous montres, et même j'en suis certain, Pierre, qu'il faut savoir à un moment être, entre guillemets, carré et en même temps créatif, comme tu le disais.
Alors, je partage tout à fait cette opinion, ce qui peut paraître d'ailleurs contradictoire, hein, mais il faut savoir être les deux. On doit être très rigoureux dans la mesure, notamment dans la communication corporate, tout simplement parce qu'on doit délivrer, je l'ai dit tout à l'heure, des messages qui sont des messages fiables, documentés, avec des faits, des chiffres, et on les doit au marché à une date donnée, à une heure donnée. Je sais que je dois, par exemple, communiquer mes résultats trimestriels à 7h30 tel jour. Eh bien, je vais pas le faire le surlendemain parce que je suis pas prêt, et puis non pas à 7h30 mais à 9h ou à 10h. Ça n'est pas possible. On a des engagements, et en fait, c'est également une responsabilité pénale. Ça, il faut le savoir quand même. Quand vous communiquez des informations au marché, vous pouvez pas publier n'importe quoi, des choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies. Donc, il est absolument fondamental d'avoir cette rigueur. Bon, pour autant, bien entendu, il faut apprendre à se réinventer, il faut avoir des nouvelles idées de communication, comment toucher telle ou telle cible différemment. Sur les réseaux sociaux, moi, j'ai passé mon temps à me réinventer. Je suis arrivé donc en 2009, j'étais en doublon avec l'ancienne directrice de la communication. Et en fait, à cette époque-là, par exemple, en matière de relations presse, j'avais des attachés de presse, comme on les appelait à l'époque, qui consacraient 80% de leur temps aux relations avec la presse et 20% au digital avec le community management du site Bouygues.com. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. C'est 80% de digital, de réseaux sociaux. On a mis en place, par exemple, une politique d'employee advocacy avec des ambassadeurs dans le groupe qui parlent de Bouygues sur des réseaux sociaux grâce à une plateforme qui est une plateforme Sociable, qui est très performante. Bien, tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, mais en tout cas, on a testé, on a regardé si ça marchait, du learning by doing, comme on dit, ou du test and learn. Et en fait, on a essayé de se remettre en question. Et donc, j'ai fait aussi évoluer mon organisation en fonction pour mieux coller à cette nouvelle donne des médias. On peut plus exercer aujourd'hui ce métier de communicant comme on l'exerçait il y a 10 ans ou 15 ans. C'est pas possible.
Alors justement, on va parler de ton parcours, qui est assez intéressant. Après l'armée, après Brest, tu rentres dans le groupe Danone. Encore un groupe d'entrepreneurs, hein.
C'est vrai.
Tu fais du food pendant plusieurs années. Tu bouges un petit peu. Tu n'es pas qu'à Paris, tu vas à Lille.
À Lyon.
À Lyon aussi. Forcément, hein. Capitale, j'en bafouille, de la gastronomie en France. Comment ça s'est passé? Parce que tu as fait du marketing auparavant, tu as fait aussi du commerce. Ça te donne cette crédibilité business, justement, tu en parlais dans le groupe. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience formidable dans ces magnifiques groupes?
J'ai une première partie de ma carrière, tu le soulignes, dans les produits de grande consommation avec donc Danone et Sara Lee. Et je considère que c'est une période absolument clé dont je garde un excellent souvenir. Alors pour être très honnête, on m'aurait dit quand j'avais 23 ans qu'un jour je serais directeur de la communication d'un grand groupe du CAC 40, j'aurais ouvert des yeux éberlués. À l'époque, j'avais un projet qui était beaucoup plus, court terme. C'était tout simplement de rentrer dans une entreprise connue pour son savoir-faire en marketing, qui était Danone. À l'époque, on rentrait chez Danone, L'Oréal, Procter, surtout dans la grande conso. Et on apprenait quelques années, et beaucoup de gens après allaient voir ailleurs, même dans d'autres secteurs. Certains sont d'ailleurs allés voir la téléphonie mobile quand ça a démarré, etc. Et on exportait un peu son savoir-faire de food, de grande conso ailleurs. Bon, il se trouve que je suis resté 14 ans chez Danone, parce que ça marchait très bien et qu'on m'a proposé tous les 2-3 ans des progressions de carrière, de poste, voilà. Et je suis sorti finalement de Danone un peu malgré moi, puisque ma société était revendue. Et en fait, il y avait une clause qui nous interdisait de revenir pendant plusieurs années dans le groupe. Le comité de direction de ma filiale avait été revendu avec les meubles, si j'ose dire. Et donc, moi, mon souhait, c'était de prendre une direction générale de filiale plutôt à l'étranger. Et donc ça, ces projets ont été contrecarrés. Et donc, je suis resté quelques mois dans la société. Il se trouve qu'il y a un chasseur de tête qui m'a appelé, qui m'a proposé de rejoindre Sarali, qui était un groupe américain. J'ai dit banco, c'est intéressant de voir un groupe anglo-saxon après un groupe français, je vais y apprendre des choses. J'y suis resté 3 ans, après j'ai passé 3 ans, et là j'ai quitté en fait la grande conso pour rejoindre les services, et je suis rentré dans un grand groupe anglo-saxon de restauration collective qui est Compass Group. Et donc, au début, pour y faire du marketing, et là j'ai aussi découvert la communication corporate, ce qui m'a plu, et j'ai eu l'opportunité de rentrer donc en 2004 chez Bouygues Immobilier pour créer la fonction communication, que l'entreprise était en pleine réorganisation avec des différentes fusions, etc. Et donc le poste directeur de la communication, bizarrement, n'existait pas vraiment. Et après, on m'a confié donc la direction marketing, et puis la création de la direction marketing et la création la direction à l'époque développement durable. Donc j'avais ce triptyque. Mais voilà, alors je dirais que c'est plutôt... Alors qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense que ça m'a apporté énormément de choses d'avoir fait du marketing dans des business extrêmement exigeants, parce que le food, les produits de grande consommation, c'est des produits avec une certaine banalité, et c'est très difficile de se démarquer, d'être compétitif, d'avoir un avantage compétitif. La notion de marque est extrêmement importante, donc j'ai travaillé dans un univers extrêmement exigeant avec des gens extrêmement performants, et je trouve que tous mes collègues de Danone ou patronnes que j'ai côtoyés à l'époque étaient des gens absolument remarquables, très brillants, et j'ai beaucoup appris grâce à eux. Et puis j'ai appris le management, figure-toi, puisque j'étais en tant que commercial et notamment dirigeant de force de vente. J'ai appris à diriger à distance, d'ailleurs, des chefs de vente et des représentants, des commerciaux, qui étaient d'ailleurs assez éloignés de moi géographiquement. Et c'est là que j'ai appris à recruter, à former, à manager, voire malheureusement à sanctionner quand c'était nécessaire. Mais je pense qu'on apprend beaucoup plus dans ce type de fonction, pardon. Car on est confronté vraiment au quotidien, à l'hyper, donc au terrain et vraiment à quelque chose d'hyper opérationnel, avec un objectif très précis et très challenging à atteindre, avec une demande extrêmement forte de la grande distribution française. Et Dieu sait si ils sont exigeants et extrêmement challengeants. Donc ça, c'est là que j'ai vraiment appris à manager des équipes assez importante. Et ça m'a servi énormément, ça continue de me servir, donc dans mon management au quotidien. Et puis j'ai appris sur la stratégie de l'entreprise, la gestion financière, etc., pour pouvoir en parler et avoir cette crédibilité tant en interne qu'en externe.
Ok, donc maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai l'impression d'avoir un entrepreneur face à moi.
C'est très gentil de ta part.
J'en suis un depuis 12 ans et je les aime tellement, mais je sais aussi les reconnaître. Ce qui ne veut pas dire que les DIRCOM ne sont pas entrepreneurs, on les forcément, sont des managers, mais je comprends mieux pourquoi j'avais cette impression depuis le début. Ok, c'est extrêmement clair. On va parler d'un sujet, puis après je vais te laisser parce que tu as évidemment beaucoup d'obligations. La RSE, ça ne peut pas être du pipeau ni du greenwashing chez toi, on est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Qu'est-ce que c'est très concrètement? Parce qu'il y a énormément de métiers, bientôt un sixième. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots?
Oui, alors la RSE, c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Bouygues depuis 2005 environ. Donc Martin Bouygues avait initié cette stratégie RSE avec d'abord la création d'un poste de directeur de développement durable. Et on a commencé à l'initier surtout d'ailleurs dans nos métiers de la construction. Aujourd'hui, c'est plusieurs choses. La RSE, c'est avant tout... une stratégie climat qui vise à nous décarboner. Donc nous avons pris des engagements vis-à-vis de nos parties prenantes de diminuer notre empreinte carbone d'ici 2030, entre 30 et 50% selon nos métiers, hein, par rapport à 2020. Et donc nous sommes engagés sur cette trajectoire. Et donc ça, c'est deux choses. C'est d'une part proposer des services et des produits à nos clients qui sont moins carbonés, moins polluants. C'est des bitumes qui sont plus vertueux, basse température, tiède, etc. Et par exemple, à base de produits végétaux, bon, ça c'est quelque chose de très important. C'est des bâtiments en bois plutôt que de bâtiments en béton. C'est des flottes de véhicules qui passent à l'électrique ou à l'hybride, etc., etc. Donc là, on est extrêmement vigilant, on est très engagé sur ce point de vue, sur ce sujet-là, puisque nous pensons que c'est absolument clé. On a géré une responsabilité collective vis-à-vis de la planète, et c'est très important. Donc ça, c'est un premier sujet. Et on a un deuxième sujet qui monte en puissance, c'est la biodiversité, puisque qui est d'ailleurs lié aussi au climat, mais c'est lutter contre l'artificialisation des sols, c'est préserver un certain nombre de lieux, d'espèces, c'est reconvertir des carrières, par exemple, qui étaient de cailloux, qui étaient exploités par Colas, et puis qui deviennent de nouveaux écosystèmes vertueux. Et donc, voilà, ça c'est des exemples et qui nous structurent énormément, et qui font l'objet d'un reporting extra-financier qui est lui-même audité par des entreprises, par des consultants, et c'est donc en l'espèce c'est EY qui le fait pour nous, qui nous audite, et donc ce sont des chiffres qui doivent être vérifiés, qu'on communique au marché, et c'est absolument majeur, et c'est aussi sont des conditions pour nous permettre de rentrer dans des indices CSR, comme on dit, ESG, pour environnement, sociétaux et gouvernance, qui nous permettent voilà de figurer dans les bons indices qui voilà réunissent un certain nombre d'entreprises et d'actions qui sont vertueuses et qui sont recommandées à l'achat par les analystes.
Pierre, j'ai une dernière question pour toi. En fait, j'en ai deux dernières. La première, quel conseil justement, fort de toute cette très belle expérience, dans le food, la grande conso comme tu dis, dans l'immobilier, et aujourd'hui à la tête de la communication du groupe, donc je le rappelle, une équipe de 25 personnes directement, animer un réseau de 350 communicantes et communicants, c'est énorme, très clairement, mais c'est normal, c'est à la taille du groupe. Quel conseil tu donnes justement à un gamin, un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du marketing ou du digital ?
Alors, moi je pense que il faut avoir d'abord une appétence extrêmement forte sur les valeurs d'une marque, les résultats d'une entreprise, des produits, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut aimer l'information. Il faut aimer s'informer par tous les moyens possibles. Et ça, c'est extrêmement... Et comprendre l'information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut, mais ça paraît évident pour tous les jeunes, vraiment être très, très à l'aise dans le digital. Et ça, alors, c'est pour les digital natives, c'est effectivement un truisme, mais pour les plus âgés, c'est pas toujours aussi facile. Donc moi, je me suis complètement mis dedans parce que j'ai considéré que c'était absolument clé. Et j'ai souvent tendance à dire que un communicant non digitalisé est un communicant ubérisé. Et donc, c'est absolument important. Alors, ça, c'est les deux choses vraiment très importantes. Et donc, il faut qu'il rentre dans une société où il va pouvoir se former, le communicant. Avoir des gens qui vont lui faire confiance, qui vont lui permettre de toucher à différentes parties de la communication, et notamment la communication. Alors, je considère moi que la communication externe est souvent la plus délicate parce que, comme disait l'autre, la communication, c'est, je crois, que c'est Jacques Pilan qui disait ça, qui était un consultant qui est un des inventeurs de la communication politique en France, qui est conseiller Mitterrand puis Chirac, et qui disait que la communication, quand c'est bien fait, c'est comme la chirurgie esthétique, ça se voit pas. Et donc, c'est un peu comme ça, mais quand c'est mal fait, en revanche, ça se voit énormément, et donc, ça pose problème. Donc, je crois que c'est extrêmement important d'être familier de ces sujets de communication externe. Donc, simplement, voilà, il n'y a pas que la communication externe, il y a évidemment d'autres pans. C'est bien d'avoir, si on peut, un parcours assez complet, éclectique, avoir fait de la communication externe, de la communication interne, de la production de contenu, enfin du brand content, etc., ce qui paraît absolument important, et d'avoir donc un background assez conséquent pour pouvoir être crédible et être un petit peu tout terrain, parce que c'est ce que nous demandent finalement nos patrons. Hein, donc ça, c'est important. Et puis, il faut se remettre en question, il faut apprendre en permanence, rester ouvert aux différentes nouvelles techniques, voilà, et les sujets de la raison d'être, de savoir de tout ce dont on a besoin pour être un bon communicant. Et donc, on peut évidemment pas se reposer sur ses lauriers. Donc, c'est une dynamique de progrès permanente, de réinvention et de formation continue, si j'ose dire, tout au long de sa carrière. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que idéalement, mais ça ne touche pas que les communicants, c'est, je dirais, là aux jeunes, essayez de choisir votre patronne ou votre patron, parce que c'est d'ailleurs plus la probabilité que ce soit une patronne est plus importante d'ailleurs dans la communication, puisqu'il y a une majorité de femmes et c'est d'ailleurs très heureux. Mais il faut essayer de trouver des gens qui vont être avoir cette exigence et cette bienveillance pour vous former, vous apprendre des choses et vous faire grandir de façon assez permanente. Et je donnerai comme dernier conseil, surtout ne vous encroutez pas dans un poste, surtout quand vous êtes jeune. Demander à passer du digital comme interne à l'événementiel, etc., pour vous remettre en question et vous remotiver et enrichir ainsi votre parcours.
Dernière question. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'es pas DIRCOM? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, si tu en as un peu?
Alors, qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Plein de choses. J'ai un certain nombre d'engagements associatifs ou citoyens, et dans les engagements citoyens, j'ai cité tout à l'heure la marine, puisque je suis officier de la réserve citoyenne. J'ai un certain nombre d'engagements sociétaux humanitaires, donc dans un certain nombre de conseils d'administration, d'ONG, d'associations. Je suis aussi donc administrateur de ESSEC Alumni, là tu l'as dit tout à l'heure. Je fais du sport, donc je pense que ça, c'est très important. Il faut avoir un équilibre de vie. Je pense que on travaille beaucoup dans ces jobs-là, et il faut avoir une hygiène de vie, un équilibre de vie. Ça passe beaucoup par le sport. Donc il se trouve que moi, j'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien nager par exemple, faire du bateau. Donc ça, c'est des choses, donc des sports de plein air. Je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à la géopolitique aussi, c'est deux centres d'intérêt importants. Et puis j'ai une vie de famille, il se trouve que j'ai la chance d'avoir, même si elles sont grandes maintenant, 4 filles. Je suis marié, j'ai 4 filles. Et donc ça fait une vie bien remplie.
Écoute, merci Pierre.
Merci Laurent.
On ne se connaissait pas. C'est un vrai plaisir de discuter avec toi. J'ai retrouvé des choses qui me rappellent mon passé, et c'est extrêmement plaisant. Alors je te fais une proposition, fermé direct. Tu es le bienvenu pour revenir, pour discuter sur plein de sujets de la communication.
Avec plaisir, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi, donc merci de m'avoir invité.
C'est moi qui te remercie.
À bientôt, j'espère.
Merci à toi. Chères auditrices, chers auditeurs, quand on a des gens aussi formidables que Pierre, qu'est-ce qu'on fait? On met 5 étoiles sur Apple Podcast, on met 5 étoiles sur Spotify, on laisse toujours, j'en bafouille, sur Apple Podcast, un magnifique commentaire dithyrambique en disant « Pierre, tu es formidable » ou « Laurent, tu es formidable ». Oui, après tout, pourquoi pas. En tout cas, ce fut un véritable plaisir. Je te remercie encore une fois, Pierre.
Merci, Laurent.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.